1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 31, et on continue dans le chapitre 11 jusqu'au verset 1. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, chapitre 11, verset 1. Au nom de Jésus. Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Vivez de façon à ne scandaliser ni les Juifs, ni les non-Juifs, ni l'Église de Dieu. Agissez comme moi. Je m'efforce de plaire à tous en toutes choses. Je ne cherche pas mon propre bien, mais le bien de tous afin qu'ils soient sauvés. Imitez-moi comme j'imite le Christ. Amen. D'où le thème de notre culte de ce matin, le Christ comme modèle, point d'interrogation. Est-ce que le Christ est un modèle à suivre? Eh bien, moi, je vous dirais non. Ça pourrait choquer certains parmi nous. Le Christ n'est pas un modèle. Imitez-moi comme moi-même j'imite le Christ. Pourtant, l'apôtre Paul le dit. Qui parmi nous, ici, aujourd'hui, oserait dire une phrase pareille à quelqu'un? Imite-moi, mon frère, comme moi j'imite le Christ. On va réfléchir 7 fois avant de dire ça, je crois. Figurez-vous que cette déclaration de Paul est aussi mal accepté par certains ou certaines personnes qu'on appelle les piétistes. Comment osent-ils se comparer à Christ? C'est scandaleux. Une autre question du même genre, est-ce que le Christ est un modèle à suivre? Et face à cette dernière question-là, nous avons 2 réponses dans notre pensée. Une partie de nous-mêmes dirait, je dirais dirait au conditionnel, oui, parce que c'est l'idéal, atteindre la sainteté du Christ ou avoir au moins une partie de sa sainteté. Mais une autre partie de nous-mêmes, qui est la plus réaliste, nous dirait ceci, c'est impossible, car nous ne sommes pas le Christ et nous ne serons jamais comme le Christ. Alors le dilemme est là. Que faire de ce texte? Je vous assure, il y a beaucoup de protestants qui n'aiment pas ce verset-là. Imite le Christ, c'est oser. Beaucoup de gens n'aiment pas l'apôtre Paul. Je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, il est encore détesté, le pauvre. Et ce qui poserait problème dans notre compréhension de cette phrase, c'est ce verbe « imiter le Christ ». Alors, je me suis dit, je vais regarder le texte grec, bien sûr. Et « imiter » vient du grec « mimetes ». Quand vous entendez déjà « mimetes », je crois que même si on ne connaît pas le grec, nous pouvons déjà avoir une idée là-dessus. Il s'agit du mimétisme. Et par définition, le mimétisme, c'est un phénomène de ressemblance plus ou moins volontaire, de communion, d'identification avec un modèle. Je dis bien de communion et d'identification avec un modèle. Et donc, dans cette définition, j'opterai plus à une ressemblance à Christ grâce à la communion. Une ressemblance grâce à la communion et non une ressemblance à cause d'un apprentissage. Comme nous l'avons l'habitude de dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais non, on n'apprend pas à être chrétien. On est chrétien. La ressemblance à Christ provient de la communion avec le Christ. Ce n'est pas comme un tableau, comme chez les peintres. On le met devant et chacun essaie de reproduire l'image qu'il voit. Mais c'est une communion. De ce fait, l'imitation de Jésus n'est pas du tout un code moral véhiculé par les légalistes et les piétistes qu'il faut suivre telle règle de vie pour ressembler à Christ. Et c'est ce que Paul dit ici, Ainsi que vous mangiez ou que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites cela pour la gloire de Dieu. Nous sommes tellement préoccupés à soigner l'extérieur, même les chrétiens, pour que les gens sachent que nous sommes des chrétiens. Mais nous faisons fausse route dans cette façon de faire, car à ce moment-là, notre témoignage devient quelque chose de superficiel. Oui, ma façon de m'habiller, ma façon de parler, ma façon d'aller dans un endroit. Alors là, les gens sont, ah, tous les critères sont remplis, je suis chrétien. Vous voyez, je suis chrétien. C'est superficiel. Et à justement ce propos, j'avais mentionné au tout début de l'accueil, il y avait un moine qui est né à Cologne, qui s'appelle un grand mystique que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Thomas à Kempis, avait écrit un livre qui a connu le grand succès des librairies de tous les temps, qui s'intitule « L'imitation de Jésus-Christ ». Je vous conseille de lire ce livre, c'est très intéressant. Un des livres les plus importants, paraît-il, selon les spécialistes, de l'histoire de la spiritualité jusqu'au XXe siècle. Et dans ce texte, dans ce livre plutôt, on aborde très bien cette thématique « L'imitation de Jésus-Christ ». Ce qui poserait un peu problème en voyant le titre, rien que le titre « Imiter le Christ », nous avons tous la tendance à penser et à poser la question suivante « Comment Jésus aurait-il vécu telle situation s'il était à ma place, n'est-ce pas ? S'il était à ma place, que ferait-il face à telle situation ?» Et même dans notre texte de ce matin, Paul semble nous donner une piste de réflexion. Ce n'est pas une indication que Paul a donnée, c'est une piste de réflexion. Il ne donne pas une réponse précise. Et cette piste, je vais vous la donner en faisant la synthèse de ce qu'il a dit au verset 31 et au verset 1. Il dit, face aux différentes situations que Paul avait vécues, quand il était avec les Grecs, il se comportait comme les Grecs. Quand il était avec les Juifs, lui aussi c'est un Juif puisque c'est un phariséen, un rabbi. Et quand il était avec la communauté chrétienne, c'est-à-dire l'Église, il se comportait comme étant les frères de ses frères. Alors la règle d'or qu'il suivait, c'est imiter le Christ en toutes choses. Alors nous revenons à l'explication que j'ai donnée au tout début sur le sens du verbe imiter. Ressembler à Christ grâce à la communion en Christ et non à cause des règles morales. Ressembler à Christ grâce à notre communion avec lui et non à cause des règles morales. Et justement, je reviens à ce que Kempis dit et véhicule cette idée-là que je trouve appropriée. Pour lui, le verset qu'il met en avant le plus expressif, c'est celui de Luc chapitre 17, verset 21. Le royaume de Dieu est en dedans de vous. Le royaume de Dieu n'est pas à l'extérieur. Le royaume de Dieu est en dedans, à l'intérieur. Ce qui veut dire ce qui se passe à l'intérieur pour Thomas Kempis est le plus important. Et ce qui est l'extérieur, dit-il, n'est que ruine. L'extérieur n'est que ruine. En d'autres termes, nous pourrions être trempés par l'extérieur si nous tenons compte comme norme l'extérieur. L'extérieur peut être trompeuse. Pour lui, l'imitation du Christ est plutôt une culture de l'intériorité. Et là, nous avons un concept totalement différent de ce que nous avons connu. Par exemple, parce que tu es chrétien, tu dois t'habiller comme ceci. Parce que tu es chrétien, tu ne manges pas ça, tu ne bois pas ceci. Tu ne dois pas aller dans tel endroit, c'est ce que Paul dit ici, etc. Donc, pour les gens, être chrétien, c'est plutôt une culture de l'extérieur. Or, pour Kempis, c'est une culture de l'intérieur. Et l'imitation de Jésus n'est pas du tout un code moral, car c'est ce qui a été reproché par ce moine. Et figurez-vous, c'est un moine qui parle, quelqu'un qui avait une discipline de vie très dure. Donc, on est loin du compte par rapport à eux. Or, il dit ça, c'est rien du tout. Un autre professeur de de philosophie éthique de l'Université de Genève a repris cette œuvre de Campis qui s'appelle Ghislain Waterlow, un des spécialistes reconnus de ce livre, avance dans une de ses exposés que le fait de se focaliser sur l'extérieur, écoutez bien ce qu'il dit, n'est qu'une affirmation de soi et qui au contraire est une forme de source de péché puisque c'est l'orgueil qui est mis en avant. Je veux que les autres savent qui je suis. Donc c'est une affirmation de soi. Rappelez-vous la prière du pharisien dans le temple qui faisait cette prière. « Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, mauvais, adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 jours par semaine et je te donne le 10e de mes revenus. » Luc chapitre 18, versets 11 à 12. Et il était si fier de lui par toutes ses performances extérieures. Et Ghislain Waterlow rajoute même qu'on ne va pas à la conquête de Jésus en étant présomptueux sur soi-même que l'on peut faire des progrès spirituels. Il y a beaucoup de gens qui font comme ça, ils pensent qu'il y a des performances spirituelles qu'il faut atteindre. Si j'étais au niveau 2 cette année, demain je serai au niveau 3. Niveau 4, comme si on passait un test. Alors à ce moment-là, c'est le mérite qui est mis en avant, mais plus la grâce. L'imitation du Christ, c'est, d'après Thomas Kempis, c'est l'amitié avec le Christ. Dieu, il n'est pas uniforme. Regardez bien la Trinité, c'est intéressant. Dieu n'est pas uniforme, mais trine. Donc c'est dans la relation que la vie spirituelle s'épanouit et non dans l'isolement. C'est dans la relation, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc il y a une relation qui crée une vie. Et c'est ce que notre texte de ce matin parle aussi. Un chrétien devrait savoir vivre avec tout type de personnes. Et ce qui est important, si vous regardez bien les paroles de Paul, le chrétien, lui, il ne s'impose pas ni dicte sa loi aux gens. Il se peut que nous prenions mal la parole de Paul au verset 31, ici en pensant que Paul, c'est quelqu'un qui se plie à son entourage. Il dit, là où je suis, je m'adapte en quelque sorte. Et donc, parfois aussi, les piétistes n'aiment pas cette phrase de Paul, comme s'il se plie, il se conforme au monde, peut-être. C'est peut-être une critique qu'on peut donner à Paul. Mais cette remarque n'est pas nouvelle, car même le Christ lui-même avait reçu ce genre de remarque. Je vais vous donner 3 exemples. Premier exemple, les pharisiens et leurs scribes disaient aussi que « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs des taxes et les pécheurs ?» C'était le reproche qu'on avait fait à Jésus. C'était très, très mal vu. Exemple 2 avec Zachée. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite, il faut que je demeure, pas juste passer, hein. Demeure aujourd'hui chez toi. » Tout joyeux, Zachée descendu vite pour le recevoir. En voyant cela, tout maugrait. Il est allé loger chez un pécheur. Loger, ça veut tout dire. Hein. Manger, habiter avec lui, vivre avec lui. Troisième exemple. Pourquoi tes disciples mangent-ils avec des mains souillées au lieu de suivre la tradition des anciens? Marc chapitre 7, verset 3. Et ainsi de suite, vous verrez, il y aura pas mal de choses. Donc, ils côtoyaient des personnes à ne pas fréquenter. Et donc, forcément, c'est quelqu'un de mauvais, car il a de mauvaises fréquentations. C'est notre façon de voir aussi dans la vie. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ça, c'est l'éthique de la société. Or, le Christ, c'est le contraire. Et à ce genre d'attitude, sans le savoir, nous pourrons être sur la même ligne du philosophe Rousseau. L'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Non, l'homme est mauvais. en soi. Et le principe de l'éthique de Jésus ici et de Paul est totalement à l'opposé de ce que la société pense. Nous croyons qu'il faut d'abord changer notre entourage et notre prochain pour qu'il puisse connaître et accueillir le Christ. C'est le schéma classique que nous suivons. Et on doit changer l'entourage. On doit changer notre prochain. Comme ça, ils sont capables d'accueillir le Christ. Or, pour Jésus, c'est tout à fait le contraire. C'est à travers nos contacts avec les gens qu'ils vont reconnaître le Christ. Plus ces gens-là nous côtoient, plus ils sauront qui est le Christ. Et c'est ce que Jésus avait dit, « Je vous donne un commandement nouveau, que vous aimiez les uns et les autres, comme je vous ai aimé, que vous aussi, que vous aimiez les uns et les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. » C'est la seule façon comment les gens vont connaître le Christ. Et ce n'est pas à travers nos discours moraux, ni à travers des paroles en cascade que les gens sauront que nous sommes les disciples de Jésus, mais c'est dans notre rapport social avec les autres. Comment te comportes-tu dans la société? Est-ce que tu es un voisin un peu bizarre? Ah, celui qui est au numéro 1 au rue de Rendeldine, puisque là où j'habite, il est un peu bizarre. C'est à partir de là que les gens vont commencer à se poser des questions. Et ne réagissons pas comme les personnes dans les sectes, on te dit qu'autour de toi, c'est le diable. Tout le monde, c'est le diable. Et qu'il faut s'isoler pour se préserver du monde. C'est le monde. Oh, un danger. Et en quittant ce temple, le Seigneur nous envoie pour apporter de la vie là où il y a la mort. Il t'envoie pour donner la lumière là où il y a les ténèbres. Il t'envoie pour donner la joie là où il y a la détresse. On ne doit pas avoir peur des ténèbres. On ne doit pas avoir peur de la mort. On ne doit pas avoir peur de la détresse. Au contraire, c'est là que Dieu t'envoie pour apporter sa lumière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.